Vous écoutez
RMC. Alors, sujet passionnant, restez bien avec nous. Mon cher Polo, le Fortuna Düsseldorf, club de deuxième division allemande, hein, je précise, ouais, qui a une très belle idée, étonnante, dans un football de plus en plus libéralisé, comme tu le dis, qui cherche à générer de plus en plus de profits, pour être de plus en plus concurrence, enfin en tout cas rentable et compétitif. C'est le terme, merci mon cher Polo. Eh bien, Düsseldorf, on veut à terme rendre le stade gratuit aux supporters.
Ouais, alors,
qu'est-ce que c'est que cette idée?
Tu as dit que le Fortuna Düsseldorf est actuellement en seconde division, c'est vrai, mais n'oublions pas que le Fortuna Düsseldorf est ce qu'on appelle un Schlafenderriese en Allemagne, c'est ce qu'on appelle un géant endormi, c'est-à-dire ce que je te disais avant, hors antenne, si j'avais de l'oseille, tu vois, je pense, et je voulais investir dans le football, je pense que j'irais zioter un peu ce qui se passe du côté du Fortuna. Le Fortuna, il était quand même finaliste d'une Coupe d'Europe en 79 contre le Barça dans un match extraordinaire, 4-3 en 1979, hein, donc c'est pas n'importe quoi comme club. Il y avait les frères Alofs d'un côté, il y avait Krankel et Niskens de l'autre. Donc c'était pas des petites équipes. Ce qui se passe en fait, c'est que on se rend compte que le Fortuna Düsseldorf, mais c'est la même chose pour la seconde division. Il va y avoir de moins en moins de recettes TV parce qu'on pense que ça va baisser, etc. Et donc on cherche à remplir le stade. Le stade, il est, quand je vous dis que c'est un géant endormi, c'est un stade de plus de 50 000 places. Donc ça fait partie de ce fantasme allemand d'avoir tous les plus grands stades allemands un jour en première division pour voir battre tous les records, déjà qu'ils ont les records de plus grand nombre de spectateurs, mais battre la moyenne annuelle. Donc il y a 29 000 spectateurs en seconde division de 29 000 spectateurs, pardon, en moyenne cette saison au Fortuna Düsseldorf pour un stade de plus de 50 000 personnes. Et là, il y a quelque chose qui a été très très commenté en Allemagne et on parle de révolution, c'est-à-dire qu'on va rendre à terme, normalement, si le pilotage et le projet avancent bien, je précise bien, si le pilotage et le projet avancent bien, parce qu'on est encore au stade des projets et du pilotage, on va essayer de rendre les matchs complètement gratuits à domicile et compensés notamment par les sponsors. Alors, c'est très intéressant parce qu'ils vont faire des tests l'année prochaine, saison 2023-2024. Il y aura trois matchs qui seront complètement gratuits. Donc, l'objectif, évidemment, c'est très intéressant parce qu'ils disent, si on amène plus de personnes au stade, eh ben, on se rend compte qu'on va récupérer plus de sponsors. On se rend compte qu'on va récupérer plus de personnes qui veulent nous aider à pérenniser le club, à monter en Bundesliga. Il se fait que la ville de Düsseldorf est aussi partenaire parce qu'elle possède le stade. Et un stade qui est quand même très moderne, qui était là, qui a été construit évidemment pour la Coupe du Monde 2006 et qui était le stade réserve pour la Coupe du Monde 2006.
Et qui accueillera des matchs pour l'Euro d'ailleurs également.
Oui, mais qu'il faut encore le moderniser, c'est-à-dire qu'il faut digitaliser, etc. Donc on nous explique qu'il y a une enveloppe budgétaire faite par différents sponsors, notamment Hewlett-Packard, notamment une banque et notamment Provincial qui a une assurance. Donc moi au début, si tu veux, ce que j'arrive pas à comprendre dans cette histoire, c'est comment est-ce que ces sponsors qui ne vendent pas des saucisses ou des frites vont récupérer leur argent parce que je vois pas à court terme comment ils vont le récupérer comme ça. Mais si tu veux, on sait déjà l'enveloppe qui va être faite pour 5 ans, c'est 45 millions d'euros, donc 9 millions par an en gros pour compenser le manque à gagner. Mais en même temps, on sait déjà où va être attribué l'argent, c'est-à-dire qu'on 20% va être donné pour renforcer l'équipe, on va développer l'équipe féminine, les infrastructures, etc. Ce système de prêt, de tickets gratuits se fera par une plateforme digitalisée, etc. Donc tout est prévu en ce moment.
Oui, c'est pas tu te pointes au stade et tu rentres. Hein,
c'est prévu à l'avant. Oui. Il y a des personnes qui sont prioritaires entre guillemets, c'est évidemment les membres de l'association et les abonnés habituels, etc. On n'aura pas le droit d'acheter, d'acheter 5 tickets, etc. Mais encore une fois, c'est un pilote, c'est un projet, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir le suivre pour voir si ça fonctionne.
Oui. Et moi, ça fait des émules également, pourquoi pas en Allemagne ou ailleurs en Europe.
Alors en Allemagne, ça discute beaucoup. Beaucoup de clubs se sont déjà positionnés. Il y a Hanovre, par exemple, qui a dit « De toute façon, ce qui est gratuit ne vaut rien ». Très intéressant comme vision d'ailleurs. Il y a d'autres clubs qui, comme Cologne, qui disaient ben nous on peut pas le faire parce qu'on est déjà blindé, donc on sait pas blindé au niveau des spectateurs, on sait pas comment on peut faire ça. Mais il y a quelque chose qui me dérange, c'est que lorsque je vous disais que c'était un géant endormi, le Fortuna Düsseldorf, c'est que lorsqu'ils étaient en première division, c'est en moyenne 44-45 000 spectateurs. C'est-à-dire que le manque à gagner entre guillemets, il est pas si grand que ça. Faut juste remonter en Bundesliga pour avoir cet afflux supplémentaire de spectateurs. Mais c'est aussi une façon de contrôler l'inflation sur les billets, évidemment. Vous savez que la Bundesliga est le pays qui, par rapport aux gros pays européens, est celui qui coûte le moins cher en abonnement, en prix des places, etc. Donc, je trouve ça intéressant. Ça questionne beaucoup en Allemagne. Mais encore une fois, par rapport à ce que j'ai lu en France, c'est un projet.
Bon, il y aura trois matchs au moins, déjà.
Il y aura trois matchs
gratuits. Voilà. Ouais. Ce qui est déjà absolument incroyable. Bon, je ne sais pas si c'est uniquement un élan de générosité. Il y a des intérêts, tu les as développés tout à l'heure. Mmh. Les sponsors aussi pour leur image peut-être, hein, qui vont s'associer bien à sûr. Cette démarche, encouragent cette mesure, cette démarche. Bon, chez vous les gars, c'est pas un sujet, hein. Non, en France, ça n'est pas du tout. Vous le savez.
On a beaucoup parlé.
C'est très philanthropique, hein. Mais dis-moi, Julien.
On a beaucoup parlé. Nous, ça a fait effectivement un peu la une de pas mal de journaux et tout ça. Mais je vois pas les clubs anglais faire pareil.
On se trouve dans un pays où on fait payer les gamins qui accompagnent les joueurs en avant-match. Donc t'imagines bien qu'on est on a pas tout ça aussi.
En France, c'est juste mentalité différente.
En Angleterre, les gamins qui donnent la main aux joueurs, et ben ils payent. Dans un club.
Alors pas directement. En fait, tu dois être membre du club junior si tu veux, des supporters juniors du club. Je sais pas, je crois que c'est 10 euros l'année. Donc c'est pas tu payes, oui tu payes, mais tu payes pas.
Je crois que c'est 750 euros à Nottingham Forest pour avoir le droit de donner la main, par exemple à Keylor Navas. C'est vrai ça ou pas, Julien?
Non, j'ai pas vu cette histoire-là.
Si.
Peut-être, hein, c'est peut-être possible, mais j'ai pas vu. Mais en tout cas, je sais que les mascottes, ceux qui donnent le coup d'envoi, enfin, qui sont là avec les joueurs, il y a une mascotte par équipe. En général, c'est ce genre de, c'est ce genre de supporters-là. Mais oui, après, ici, tout est un business, hein, de toute façon, donc.
Ouais, Nottingham est le plus cher là-dessus, hein, tu vois. Bref, Arsenal aussi le fait, d'autres clubs le font également.
En Espagne, il y a un truc que certains clubs font. Alors ils le font un peu moins depuis l'histoire du Covid et l'Espagne est un pays qui va pas bien économiquement. Mais en fait pour les abonnés, tous les ans ils faisaient dans certains clubs, pas dans les gros clubs, ils faisaient le jour du socio. C'est-à-dire le jour où t'es abonné mais tu payes quand même.
Ah ouais, donc ils font, ouais, d'accord.
En fait, tu payes deux fois. C'est-à-dire que t'as certains clubs qui font, pour avoir un extra truc. Ah ouais, je vous jure, c'est un truc.
Il y a quelque chose à contrepartie, non? Peut-être.
Non, simplement, c'est que ce jour-là, les abonnés, ils payent.
C'est aussi
pas au Real ni au Barça.
Non, mais à l'Atletico, pour avoir le maillot d'un joueur, il y a des enchères désormais. Quoi.
Oui, c'est après ces enchères. Pendant le match.
T'as une application, tu enchères pour avoir le maillot.
Ça, c'est dans plusieurs clubs en Europe.
D'un cas joueur n'a pas pu balancer le maillot en tribune.
Il y a plusieurs clubs en Europe. Mais el Día del Socio, el Día del Abonado, c'était un truc. Ça se voit un petit peu moins aujourd'hui, mais. Il y a quelques années, c'était mais classique. Ouais, parce que c'est vrai que les abonnements n'étaient pas très chers en Espagne. Et donc, ils se faisaient et en général, c'était quand il y avait le Real ou le Barça qui venait, quoi.
Une pièce, s'il vous plaît, quoi. Johan?
Non, je dis pour l'histoire des maillots, c'est, vous savez que généralement, les joueurs ont deux maillots préparés par match. Et c'est un des deux maillots qui est mis aux enchères. C'est-à-dire que l'autre, ils peuvent le donner à un supporter, un adversaire.
Je crois que c'est partout,
Voilà, les gars. Bon. Voilà, Poulon, on va suivre ça avec attention, bien sûr. Hein. Ça va faire parler également en France dans les prochaines semaines. Et ça va intéresser les supporters.
Je voulais juste dire que le sponsor principal du Fortuna Düsseldorf, Henkel, ne souhaite pas s'associer à cette histoire. Donc, on va voir. Parce qu'encore une fois, on part dans l'inconnu. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Encore une fois, la ville de Düsseldorf est assez économique.
C'est la ville de Kraftwerk aussi, mon cher Düsseldorf.
Oui, tout à fait. Mais c'est surtout une ville qui a beaucoup souffert économiquement et qui aujourd'hui est le hub de l'Allemagne pour tout ce qui vient de l'Ouest. Et en fait, ils ont construit la Bundesliga aussi de telle façon à Düsseldorf, de telle façon que chaque avion, je crois que tu es à 90 minutes de tous les stades allemands. Mmh. Il y a tout un gros business qui s'est créé par rapport à ça, et c'est pour ça que le stade de Düsseldorf m'intéresse en dehors de Saint-Histoire beaucoup. Mais je sais pas tout. Si tu veux, encore une fois, il y a les conférences de presse sont extraordinaires de Klaus Allof, notamment l'ancien grand international allemand. Mais si tu veux, t'as l'impression que toutes les questions, elles sont pas, on sait pas. On va un peu dans l'inconnu, on va voir ce que c'est. Et si vous voulez qu'on en parle, et je te remercie, Nicolas, parce que en France, t'as un peu, tu vois ça partout. Ah, ils vont donner des places gratuites.
Oui, non, c'est
un petit peu plus complexe que ça.
Comme d'habitude. C'est l'heure de la troisième minute de la soirée. Elle est pour Fred Hermel. On envoie la musique, Toto. La noche más larga. Quiero que no me abandones.
Amor. Luis Eduardo Aute, c'est une chanson qui s'appelle À l'aube, et il dit je pressens qu'après cette nuit viendra la nuit la plus longue. Alors c'est l'histoire d'un condamné à mort qui va être fusillé le lendemain matin, et Alors ils vont pas mourir, mais ils vont descendre en deuxième division. C'est les joueurs de d'Elche. Et il dit je veux que tu ne m'abandonnes pas. Et donc c'est le message que les joueurs de Elche ce week-end ont délivré à leurs supporters. Parce que Elche vraiment est dernier et ils pouvaient même descendre mathématiquement ce week-end. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis 4-0 au Rayo Vallecano. Et ça n'a fait que confirmer la célèbre formule d'un entraîneur qu'on connaît bien du côté de Marseille, qui s'appelle Javier Clemente.
Ah oui.
Il est entraîneur historique en Espagne.
Il a laissé un grand souvenir, ouais.
Club des Bilbao et surtout sélectionneur espagnol. Et Javier Clemente disait toujours, je veux toujours rencontrer une équipe qui vient de rencontrer le Real ou le Barça. Eh ben, le Rayo Vallecano, en milieu de semaine, rencontre le Barça, bat le Barça, et après, il se prend 4-0 à Elche. Voilà, c'était
le relâchement.
Il y a tout, que tu gagnes ou que tu perdes face à l'un de ces deux gros, tu le payes d'une manière ou d'une autre, physiquement, psychologiquement, animiquement parlant, suivant. Et ça a permis aux joueurs d'Elche d'offrir une belle victoire, l'une des très, 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 très rares de la saison à ses supporters, et de lancer ce message, ne m'abandonne pas l'année prochaine. Et on espère pour eux qu'il y aura encore du monde au stade d'Elche qui est situé c'est le Levante, le Levant, c'est du côté de, on va dire, c'est la communauté de Valence, en fait.
Province Alicante, je vois, voilà. C'est ça.
Province Alicante, c'est la communauté de Valence, la région autonome de ce qu'on appelle la Comunidad Valenciana.
Ça vaut le coup, t'es déjà allé ou pas? Non,
c'est pas très beau. Non,
pas très beau, d'accord.
Non, c'est, pas très beau.
C'est très clair. La musique est plus belle que la ville que tu viens de décrire.
Et Aouté, c'est un immense chanteur.